Ça sera sur l'écran aussi. Donc Jean chapitre 6, la multiplication des pains. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Jean chapitre 6, et les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les signes, ou miracles, ou signes qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Ici, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du signe que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Prions. Seigneur, comme nous l'avons chanté, romps-nous le pain de vie. Parle-nous par la puissance de ton esprit. Ouvre nos cœurs et ouvre nos yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta loi. Et donne-nous la foi de saisir ce que tu nous proposes ce matin dans ta parole. Et c'est pour ta gloire seule que nous prions ces choses. Amen. Veuillez prendre place. La semaine dernière, avec la fin du chapitre 5, nous avons pensé à ceux qui ne croient pas en Jésus, notamment les leaders religieux juifs de l'époque. Et nous avons pensé aux raisons pour leur incrédulité, c'est-à-dire les mauvaises raisons, parce qu'il n'y a pas de bonnes raisons pour l'incrédulité, mais des mauvaises raisons pour l'incrédulité en Jésus-Christ. Aujourd'hui, par contre, dans ce texte, nous avons affaire avec des gens qui croient en Jésus, mais pour des mauvaises raisons. C'est une réalité auquel on fait face encore aujourd'hui. Le nombre de prédicateurs abonde qui disent « Venez à Jésus et vous serez guéris » ou même « Venez à Jésus et vous prospérerez, vous serez riches ». Alors, ce sont peut-être des cibles faciles et je pense qu'il est probable que ce serait maximum une très petite minorité ici qui ferait face à ce genre d'enseignement régulièrement. Mais dans ce texte, nous faisons face à la question, si vous croyez en Jésus, pourquoi? Ou même si vous vous intéressez à lui seulement, pourquoi? On peut venir à lui pour des mauvaises raisons, avec la mauvaise motivation, avec une approche égocentrique. Et on trouve qu'en fait, on n'est pas devant Jésus-Christ, on est à côté de la plaque. Pour qui est-il venu donc? Et pour qui est-il encore là? Qui sont ceux qui viennent à Jésus comme il faut? Pour trouver la réponse, il faut comprendre ce signe qu'a fait Jésus sur un mont près de Galilée un jour de printemps, il y a 2000 ans. Dans l'évangile de Jean, nous avons 7 signes que Jean a choisis exprès pour nous présenter son message. Son but est que l'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. C'est ce qu'il dit très explicitement à la fin du chapitre 20. Il a choisi ces éléments-là pour nous présenter son message. Il y a bien d'autres signes qu'il aurait pu mentionner, et on le voit en fait dans ce chapitre au verset 2. La foule était là parce qu'elle voyait les signes, ou on a miracle dans la traduction colombe malheureusement, mais c'est le mot signe. La foule voyait beaucoup de signes opérés sur plusieurs malades. On a vu très peu jusque-là. Eux, ils ont vu beaucoup de signes. Mais Jean a choisi 7 signes, et nous sommes au 4e. Tout comme on a un signe au début du chapitre 5, on a encore un signe ici au début du chapitre 6. Mais si le signe du chapitre 5 et le contenu du chapitre 5 indiquaient principalement l'identité de Jésus en tant que Dieu, le Fils divin égal avec le Père, au sein du Père depuis toute éternité, Dieu lui-même, le signe du chapitre 6 nous présente sa mission. Pour utiliser le langage que Jean a utilisé dans son prologue et qu'on a regardé il y a très longtemps, le livre nous présente la lumière qui est et la lumière qui vient. Jean veut qu'on comprenne Jésus comme la lumière qui est en tant que Dieu créateur et la lumière qui vient en tant que rédempteur. Et si nous sommes au 4e signe sur 7, ça veut dire que nous sommes au signe du centre. Et dans la Bible, très souvent, qui dit centre dit clé ou charnière. Dans la Bible, on trouve souvent ce qu'on appelle des chiasmes. C'est un peu technique. Et il faut avouer qu'il y a certains gens qui voient beaucoup plus de chiasmes que d'autres. Il y a certains pour qui tout est un chiasme. J'ai trouvé un article qui argumente que l'évangile de Jean, c'est que des chiasmes. Mais en fait, parfois, les gens ont raison et en fait, je trouve assez convaincant par rapport à l'évangile de Jean. Mais qu'est-ce qu'un chiasme? On pourrait dire que c'est un peu comme une pyramide avec plusieurs niveaux. Si on montait une pyramide pour descendre l'autre côté, on va arriver bien sûr au pic. Mais quand on descend, les niveaux sur lesquels on descend correspondent au niveau à la montée. Donc, avec les 7 signes, on a ça. Et donc, par exemple, on a 4 niveaux. Donc, le premier signe correspond à des éléments communs avec le dernier signe. Le deuxième avec le sixième. Le troisième avec le cinquième. Et puis, au pic, on a le 4e tout au centre. Et le pic de la pyramide, le centre du chiasme, d'habitude sert de charnière. Ça nous donne un élément clé pour interpréter tout le reste. Et si cette histoire de chiasme était une façon beaucoup trop compliquée de vous dire qu'il s'agit d'un signe très important, je vous dirais aussi que nous avons ici le seul miracle mentionné dans chacun des 4 évangiles, à part la résurrection de Jésus. C'est le seul miracle mentionné par tous les 4. Il y a quelque chose ici qui a vraiment interpellé, marqué les disciples, les évangélistes. Et surtout, il y a quelque chose ici que le Saint-Esprit, qui nous parle par ces 4 évangiles. Il y a quelque chose ici que l'Esprit veut nous permettre de découvrir à partir d'une variété de perspectives pour bien méditer ce miracle en particulier. Et je souligne qu'il s'agit bel et bien d'un miracle. Ce n'est pas que ce garçon a servi de reproche à tout le monde pour leur radinerie, pour que tout le monde partage le repas après. C'est ce que disent certains commentateurs libéraux. Ça révèle plus sur les commentateurs que sur le texte. Jésus a bel et bien nourri 5000 hommes à partir de 5 pains et 2 poissons. Et là, on parle que des 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Dans l'évangile de Matthieu, il a précisé, il s'agit de 5000 hommes, mais il y avait les femmes et les enfants aussi. Donc, on ne sait jamais, peut-être jusqu'à 20 000 personnes. Mais quel est le sens de ce signe? Comment comprendre la mission de Jésus? Comment éviter de venir à lui pour des mauvaises raisons? Regardons quelques indications qu'on voit dans ce signe. On peut constater dans un premier temps que Jésus est le prophète ultime. le grand et le dernier prophète promis par Dieu. Moïse était un grand prophète, le plus grand des prophètes dans l'Ancien Testament, et par lui et son intervention, le peuple d'Israël a été nourri dans le désert avec la manne qui tombait chaque nuit. Donc ça fait écho à ça, dans un sens. Et dans Deutéronome 18, Moïse a dit qu'il y aurait un autre prophète envoyé par Dieu. Et souvenons-nous de ce qu'on a vu la semaine dernière, Jésus l'a dit très explicitement, si l'on lit l'Ancien Testament, si l'on lit Moïse sans comprendre que ça parle de Jésus, on a raté le sens de l'Ancien Testament. Jésus a dit très clairement, Moïse a écrit à mon sujet. Après Moïse, quelques centaines d'années plus tard, la question se posait si pour ce grand prophète, s'il s'agissait d'Élie. C'était sûr, c'est sûr que c'était un grand prophète, il a aussi fait plein de miracles, y compris un miracle par lequel la veuve de Zaréphath a été nourrie pendant longtemps, parce que la farine et l'huile ne s'épuisaient jamais. Mais ce n'était pas lui le grand prophète. Ça se révélait sur la montagne, où il allait à la montagne et il a vu des choses un peu comme Moïse a vu, le feu, le vent, le tremblement de terre. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Parfois on entend une petite voix. En fait, l'idée c'est qu'il n'a rien entendu. C'est-à-dire, il n'y avait rien de nouveau, ce n'était pas un grand changement, ce n'était pas lui le grand tournant, ce n'était pas lui le grand successeur à Moïse. Lui, il devait continuer à servir dans la lignée de Moïse, mais ce n'était pas lui le tournant. Et en fait, son successeur, Élisée, a fait des miracles aussi. Et parfois, ça ressemblait au miracle d'Élie, mais en plus grand. Justement pour souligner, ce n'était pas Élie, mais pour dire, quand il y a un Élie, il y a quelqu'un de plus grand qui vient après. Et en fait, le langage de Jean 6 reflète un peu le langage de la traduction grecque de 2 rois 4 avec un miracle du prophète Élisée. Là, on voit Élisée qui multiplie 20 pains d'orge pour 100 personnes. Il n'y a que Jean qui précise qu'il s'agissait de pains d'orge. Et le mot qu'il emploie pour garçon ici est une forme relativement rare, mais qui s'utilise aussi dans 2 rois 4 pour parler du garçon qu'Élisée a ressuscité juste avant. Donc on a quelques échos de ça pour penser à Élisée qui a multiplié 20 pains d'orge pour 100 personnes, et déjà ça c'était énorme, mais là 5 pour 5000 et plus. Et tout comme Élie est venu, mais après il y avait Élisée en plus grand, Jean-Baptiste est venu pour accomplir le rôle d'Élie, mais puis en plus grand encore on a Jésus. Donc c'est un grand prophète, le dernier prophète attendu depuis si longtemps, promis par Moïse, promis par Dieu. Puis dans un deuxième temps, c'est le roi messianique. C'est le roi attendu qui va tout changer. On voit des échos du langage prophétique de l'âge messianique dans ce texte. Même dans le petit détail qu'il y avait beaucoup d'herbes, mais il y avait aussi l'image souvent employé pour parler de l'âge messianique comme un repas ou un festin. Il y a beaucoup d'herbes, comme si l'âge messianique est arrivé pour les brebis d'Israël. Mais ce grand festin, comme on a lu dans les prophètes tout à l'heure. Et ce n'est pas anodin qu'il se trouve qu'il y a 12 grands paniers de pain ramassés. Comme si c'est Jésus qui ramasse les 12 tribus. Pas littéralement, mais tout le peuple de Dieu. Tout ce qui croit en lui, tout ce qui appartient à Dieu. Et pourquoi il les ramasse? Afin que rien ne se perde. C'est le même mot employé dans Jean 3,16, afin qu'il ne périsse pas. C'est le même verbe employé. Il ramasse les 12 tribus, il ramasse tout le peuple, afin que rien ne se perde. C'est le roi messianique qui peut satisfaire, ramasser et sauver son peuple. Et pourquoi la foule voulait le suivre? En début, au verset 2, c'était parce qu'il faisait plein de miracles, plein de signes. Et puis, ils ont pu avoir un repas qui leur a confirmé que c'était le Messie, celui qu'ils attendaient depuis si longtemps. Et verset 14, ces gens-là, à la vue du signe que Jésus avait fait, disait vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils avaient mal compris quelque chose. J'indique ici pour une deuxième fois que Jésus sait très bien ce qui se passe, ce qu'il va faire et comment les gens en pensent. Verset 15, on lit « Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Ils avaient compris deux choses très très importantes au sujet de Jésus. Mais ce n'était pas assez de dire que c'est un grand prophète ou même le Messie. Il faut se demander « Et alors ?» Et alors ? Il voulait un Messie qui serait un roi, qui allait servir de leader politique, en fait. Qui donnerait de la victoire contre les Romains et établirait un règne parfait terrestre. Il voulait un Jésus qui allait satisfaire à leurs désirs politiques. Or, ce n'est peut-être pas ce qu'attendent les gens aujourd'hui, quoique peut-être pour certains, mais on a plein de fausses idées sur la question « et alors ?» C'est le Messie, et alors il me donnera tout ce que je veux en termes de santé et de richesse. Non. C'est le grand prophète, et alors il a partagé plein de belles idées et d'inspiration pour nous tous. Non. Ce n'est pas à nous de choisir la réponse à la question « et alors ?» Il faut comprendre alors, dans un troisième temps, que c'est lui l'hôte divin du festin éternel. Il est l'hôte divin du festin éternel, le grand maître du festin. Pourquoi ce miracle serait-il le seul à apparaître dans les quatre évangiles ? Pourquoi ce miracle serait-il celui sur lequel le Saint-Esprit a voulu donner autant de perspectives que possible ? Ben justement, il me semble, parce qu'il s'agit d'un repas. Et si vous y réfléchissez un instant, la nourriture et les repas ont une place très importante dans la Bible. Même si on pense aux signes qui étaient liés à la toute première alliance de Dieu avec Adam, l'alliance des œuvres ou l'alliance de la vie, quel était le signe de cette alliance ? Quelle était la chose qu'il aurait pu recevoir s'il avait obéi à Dieu ? Ben c'était un fruit. Le fruit de l'arbre de la vie. Adam a choisi un autre fruit, bien sûr, par sa rébellion. Mais s'il avait obéi, il aurait reçu quelque chose à manger. Et pourquoi la nourriture comme signe ? Ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose dedans. Si l'on pense que l'idée de repas et de nourriture dans la Bible sont principalement question de lire l'information de nutrition sur l'emballage et voir ce que ça nous donnera en termes de nutrition, on a raté le sens. Mais plutôt, qui dit repas dit communion. Peut-être pas en ce temps de confinement. Mais en fait, les confinements, les restrictions, ça nous a souligné à quel point ça nous manque. Qui dit repas dit communion. Qui dit pain dit compagnon. C'est la racine, si je ne me trompe pas. Un compagnon, c'est celui avec qui on mange le pain, en particulier. Et donc, les repas ont un lieu important dans la Bible parce que l'espérance de tous les croyants, de tout le peuple de Dieu, c'est la communion avec Dieu, symbolisée par ce repas riche, ce festin. Les fêtes dans l'Ancien Testament par lesquelles ils se souvenaient de la rédemption de Dieu et c'est au fait. C'était des festins, des repas. Et on est proche de la Pâque ici, on voit dans verset 4. La grande fête, le grand festin du peuple. Et comme on a vu avec d'autres textes ce matin, l'idée et l'image d'un grand festin somptueux figurent souvent dans la proclamation des prophètes pour parler de notre espérance ultime. Même quand on est décrit comme des brebis, il nous promet des verts pâturages où l'on pourrait paître. Et donc, si l'on veut comprendre la mission de Jésus en tant que Messie, il faut comprendre ça comme étant central. L'idée de renouveler, accomplir toutes choses pour que nous puissions nous réjouir tous ensemble avec Dieu en tant que famille dans un grand festin. C'est un grand repas joyeux, un sabbat éternel. Si l'on vient à Jésus tout en croyant que c'est le plus grand prophète, et que c'est le roi messianique, mais en pensant que le « et alors » c'est une espérance politique, ou le fait d'avoir une bonne fée dans sa vie, ou de l'inspiration, on a raté l'essentiel. La question que pose Jésus à Philippe est très importante. Il n'a pas demandé « qu'est-ce qu'on va manger ?» Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, il a dit, d'où est-ce qu'on peut acheter à manger ? Ça vient d'où ? Oui, le garçon a donné 5 pains et 2 poissons, mais c'est Jésus qui a nourri la foule, et plus que nourri cette énorme foule. C'est lui l'hôte divin du festin. Et si ce signe ne faisait pas penser à la foule, à toutes les promesses d'un festin éternel où Dieu lui-même est l'hôte lui-même, ils n'ont pas du tout compris. Jésus se proclame ici, non pas comme leader politique, mais l'espérance de toute la création, celui qui nous mènera au grand festin éternel, dont la Pâque n'était qu'un petit avant-goût. Et aussi, pour souligner son message, notons comment Jean décrit ce que fait Jésus au verset 11. C'est le verset tournant dans ce passage. Malheureusement, la version Colombe, ça donne bien le sens, c'est bien et fiable, donc ne vous inquiétez pas, mais ça ne capture pas forcément la formulation de Jean tout à fait. Au verset 11, on pourrait mieux traduire, je suggère, Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Alors ça ne change pas énormément le sens, mais juste cette formulation, Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, les distribua. À quoi est-ce que ça fait penser? Jean a écrit son évangile plus tard que les trois autres. Et donc il écrit à un moment où les pratiques de l'Église sous la Nouvelle Alliance ont été non seulement établies, mais bien connues par les chrétiens. Et bien que le sens principal de ce repas n'est pas la Sainte Cène établie plus tard, comment les premiers lecteurs de cet évangile auraient-ils pu entendre Jésus prit les pains et ayant rendu grâce les distribua sans entendre une allusion claire à ce que l'on entend quand on se souvient et en venant à la table du Seigneur à la Sainte Cène? Et qu'est-ce que la Sainte Cène? C'est le signe et le sceau de cette nouvelle alliance. C'est l'avant-goût que nous recevons du festin éternel qui nous attend, que Jésus a établi et dont il est l'hôte, le maître. Le festin que Jean va appeler ailleurs dans Apocalypse, le repas des noces de l'agneau. L'hôte de ce festin, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et que reçoit-on dans la Sainte Cène comme avant-goût du festin? Non pas un pain d'orge qu'on a trouvé ou qu'un petit garçon a amené, mais Jésus dit « Ceci est mon corps, rompu pour vous ». Nous recevons, non pas physiquement, par une transformation ou une transsubstantiation, comme s'il faut regarder les détails de ce qui est contenu, mais spirituellement, par la foi et par la puissance de l'Esprit, le corps de Jésus-Christ brisé pour nous. Par ce grand signe de la multiplication des pains, Jésus se proclame hôte divin du grand festin, auquel il nous invite. C'est lui qui nous donne la nourriture spirituelle dont on a besoin. Tout dont on en profitera dans la nouvelle création, on le reçoit de sa main divine. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'est aussi lui la nourriture que nous partageons et qui nous nourrit. C'est en lui que nous avons la communion. C'est grâce à son sacrifice à la croix. C'est son corps à lui. C'est parce qu'il s'est donné pour nous que nous pouvons participer à ce grand festin. Si donc votre espérance est plutôt politique ou temporaire ou terrestre ou morale, vous ignorez totalement le sens de ce signe et le sens de Jésus. Jean nous invite, il nous appelle à voir ici l'hôte divin du festin éternel qui nous attend. Si vous le voyez ici comme ça, si vous voyez ici la source même de la vie éternelle, si vous voyez quelqu'un qui est venu pour établir une communion joyeuse, éternelle avec son peuple, si vous voyez ici un Messie bienveillant et généreux avec une vision plutôt cosmique et éternelle, j'en ai qu'une chose à vous dire. Ben, croyez. Croyez que Jésus est le Christ, le Messie, dans ce sens-là, et le Fils de Dieu dans ce sens-là. Et en croyant en son nom, vous aurez la vie éternelle. Ne venez pas parce que vous le trouvez plutôt impressionnant ou intéressant. Ne venez pas parce que vous avez des projets pour lesquels vous pensez pouvoir utiliser un peu de Jésus. Ne venez pas parce qu'il pourrait vous aider à être plus satisfait par quelque chose d'autre qui ne vous satisfait pas totalement encore. Ne venez pas pour qu'il vous aide à être plus satisfait financièrement, ou en termes de santé, ou en termes de culture, ou en termes de relations ou de politique. Ne venez surtout pas pour être satisfait en vous-même. Venez pour être satisfait en lui, parce qu'il va vous satisfaire, lui. Lui qui s'est donné pour vous, pour vous assurer une place au festin éternel, où l'on sera dans la communion parfaite avec Dieu le Père et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et venir à lui, ben, ça veut dire quoi concrètement ? À lui parler, ça veut dire prier, lui dire que l'on veut se confier à lui éternellement, entièrement et éternellement, lui dire qu'on veut abandonner les ambitions que l'on avait avant et pour lesquelles on voulait plutôt utiliser Jésus, lui dire qu'on le veut lui et la communion éternelle avec Dieu qu'il propose en tant qu'hôte divin du festin. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, donc prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le grand prophète, le roi messianique, nous confessons que tu es le maître, l'hôte divin du festin éternel. Ce n'est pas un festin que nous méritons. Nous méritons d'être carrément rejetés. Et souvent, nous ne voyons même pas l'immense privilège qu'est le fait de vivre en communion joyeuse avec toi et avec le Père par la puissance de l'Esprit. Nous préférons essayer de te coopter dans nos projets à nous. Nous préférons être sélectifs dans notre compréhension de tout ce que tu fais pour nous, pour t'utiliser comme on veut. Nous le confessons et nous nous repentons et nous reconnaissons que tes projets pour nous sont de loin meilleurs. Nous reconnaissons le prix immense que tu as payé pour nous inviter au festin. Tu t'es donné en sacrifice. Tu t'es donné en nourriture spirituelle pour nous. Tu es mort sur la croix pour souffrir ce que nous méritions dans notre place. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus, et nous te prions de nous aider à vivre selon tes priorités, à vivre en communion avec toi, vivre pour te glorifier. Aide-nous dans les moments de solitude, de souffrance, de confusion, à te regarder, à trouver la joie en toi, à espérer en toi, et croire, savoir que tu feras toute chose nouvelle un jour, et que nous vivrons avec toi dans la joie parfaite. Et nous te prions ces choses à ta gloire seule. Amen.